Pour l'heure, on va recevoir donc Christophe Becker, Samuel Etienne et puis Flavien. Chacun va décrypter un peu l'horizon de cette croisée des chemins. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a parlé beaucoup d'Europe dans l'introduction. On va se pencher un peu sur ce qui se passe en Europe de l'Est. Et à titre personnel, j'ai une expérience modique, mais j'avais réussi à faire sortir chez Division Nada un groupe qui s'appelait Feeling Bay, qui venait de RDA. Et peut-être tu en parleras dans ta communication, je ne sais pas. Et puis on restera en RDA avec Samuel, en Europe de l'Est plus largement. Et puis Flavien fera la jonction avec la fraction Armée Rouge, avec Caméra Silence. Vous savez, tire son nom des cellules de torture blanche qu'on appelait à l'époque pour enfermer les prisonniers politiques de la RFA. Donc on sera toujours dans une jonction RFA-RDA à ce moment-là. Voilà, je vais vous laisser tout de suite la parole. Ouais, je pense que le mieux, c'est peut-être d'enchaîner les trois.
Comme tu veux.
Hein, et puis d'avoir cette grande discussion.
Bonjour, je m'appelle Christophe Becker. Je suis chercheur en littérature américaine, principalement. Je crois qu'on peut dire que j'ai commencé à pas mal travailler avec Pind depuis quelques années. Peut-être quasiment depuis le début, presque. Donc aujourd'hui, je voulais parler de Classmec. C'est quelqu'un que j'ai connu par mes autres recherches, par les recherches sur la littérature américaine, parce que c'est quelqu'un qui a écrit et co-réalisé un film. Ici, c'est deux de ses films. Le premier qui est Décodeur, sur lequel je bosse, qui est un film qu'il a réalisé au début des années 80, qui est un film assez important, dont on parle relativement peu, qui vient à peine de ressortir en Blu-ray et en DVD. C'est un film important, pourquoi ? Parce que c'est un très bon film, tout simplement, que je vous encourage à acheter ou à voir. Et vous avez William Burroughs et Genesis Peeridge, donc de Robin Grissel, qui jouent dedans, plus ou moins leur propre rôle. Donc pour vous donner un exemple de ce que fait Klaus Meck, je voulais essayer de vous montrer, si possible, la bande-annonce de son film B-Movie, que je vais peut-être pas passer en entier.
West-Berlin in den 80ern war eine Stadt im Ausnahmezustand. Ein kreativer Schmelztiegel für Soap- und Popkultur, für geniale Dilettanten, angehende Weltstars. West-Berlin war unberechenbar. Mein Name ist Mark Reeder und ich komme aus Manchester. Ende der 70er bin ich in Berlin gestrandet. Was ich in den nächsten 10 Jahren in West-Berlin erleben sollte, habe ich in diesem Film festgehalten. Bevor der eiserne Vorhang fiel, feierten in der eingemauerten Stadt Künstler und Kommunaden, Hausbesetzer und Hedonisten eine wilde Party. Es ging nie um kommerziellen Erfolg, sondern nur um der...
On va peut-être pas regarder, on va s'arrêter là. Ouais. Non, mais ça s'arrête juste sur le... Hey, regardez-le chez vous. Regardez-le chez vous. Donc, je disais, Klaus Meck, je l'ai rencontré justement à propos de ce film. C'est un réalisateur allemand, c'est un producteur, c'est un scénariste qui est né le 28 juillet 1954 à Hambourg. L'intérêt pour moi, c'est que, au cours des entretiens que j'ai pu avoir avec lui, Klaus Meck, c'était quelqu'un d'important pour moi, déjà parce que je vais montrer son film Décodeur l'année prochaine au prochain colloque Burroughs qui aura lieu en septembre 2020. Donc, c'était justement son rapport au punk. Klaus Meck, c'est donc un réalisateur allemand, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu un des premiers magasins punk à Hambourg, voilà, qui était Ripoff, qui a duré de 1979 à 1983 à peu près. Au fur et à mesure de ses entretiens, il a commencé à me parler de l'intérêt qu'il portait au punk et de l'intérêt qu'il avait eu à l'époque à essayer de faire connaître cette musique en Allemagne. Donc on a commencé à en parler lui et moi plus largement. Alors ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que disait Christophe Pécou tout à l'heure sur Le Havre, c'est-à-dire que Le Havre, c'est l'équivalent allemand pour Hambourg. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous habitiez en Hambourg à l'époque, le plus simple c'était de prendre le ferry et d'aller directement à Londres. C'était un moyen de transport qui était relativement peu cher Et en fait, toute la scène de Hambourg, justement, a commencé à se développer avec ces voyages de jeunes gens qui allaient très régulièrement chercher des disques, chercher des vêtements, chercher des badges en Angleterre et à Londres, plus particulièrement, et qui revenaient avec cette musique qui était très peu connue à l'époque, en fait. Klaus Meck a commencé à me parler de sa découverte du punk. Il a découvert le punk relativement tôt, pour l'Allemagne, c'est-à-dire 1978, après ses voyages consécutifs à Londres. À l'époque, il était chauffeur de taxi. Alors, il était chauffeur de taxi et il travaillait dans les milieux autonomes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très rapidement été attiré par... par les textes d'Ulrika Meinhof, dont on parlera un petit peu plus tard si on a le temps. Donc c'est quelqu'un qui a commencé par découvrir de manière tout à fait simple et logique les Sex Pistols avec Nevermind the Bollocks, qui l'a énormément influencé. Il n'a pas eu l'occasion de les voir tout simplement parce que, je vais passer d'autres images du magasin, tout simplement parce qu'ils ont splitté au mauvais moment. À partir des années 1980, Klaus Meck va décider d'organiser des événements. Organiser des événements, pour lui, c'est ne pas distinguer entre le punk d'une part et ce qu'il appelle la new music, c'est-à-dire la musique expérimentale, on va dire. Pour lui, tout ce qui est punk va dans l'organisation de concerts de pair avec la musique expérimentale. Un de ses premiers concerts qu'il a pu organiser, c'était vers 1979-1980, c'était avec Ensturm signed Neubauten, que je ne dirai qu'une seule fois. D'accord, je vous remercie. Donc maintenant, je dirai Neubauten. Donc il a organisé un événement, c'était le premier concert de Neubauten. Après, il est devenu leur manager. Il racontait que ce qui était important à l'époque pour lui, c'était précisément de faire découvrir d'une part la musique punk et la musique expérimentale, donc avec Neubauten. Il est devenu leur manager par la suite. Donc il était très proche des musiciens dont on va reparler qui va embaucher plus tard pour être acteur dans ses films. Je continue avec des photographies du magasin Ripoff, donc 1978, Hambourg. Donc ce qu'il me racontait, c'est que en 1978, donc il était taxi et il a pris dans son taxi un Allemand qui s'appelle toujours Alfred Hilzenberg, que je ne dirai encore qu'une seule fois. Alors lui, son intérêt, c'était en particulier sur le rock'n'roll. Il avait organisé une exhibition, c'est-à-dire une exposition, je vous remercie pour l'anglicisme, sur les 25 ans du rock. Et en fait, en le chargeant dans son taxi, ils ont commencé à parler de musique, ils ont commencé à parler de revues, des fanzines qui commençaient à apparaître à l'époque. Et Klaus Meck lui a parlé de sa revue qui était Cooly Lolly Review, qui est juste là. Là vous voyez donc, c'est Patti Smith, on dirait Lou Reed, mais c'est Patti Smith, au fond, avec le chien. Ce qui était sous-titré un magazine pour la joie de vivre radicale. Alors Cooly Lolly Review, c'était c'était un fanzine donc à l'époque qui parlait de tout et de rien, c'est-à-dire il parlait beaucoup de musique, il parlait de l'explosion du punk en Allemagne à l'époque, tout début, et il parlait de communes au sens communiste qui étaient en Autriche, ou alors une autre marotte de Klaus Meck, c'était les ovnis. Donc ils en viennent tous les deux à parler de cette revue, Cooly Lolly Review, et puis au culot, Klaus Meck lui explique qu'il a fait la première interview de Johnny Rotten, donc en 1978, qui était paru dans cette revue, dans ce fanzine. Alors le seul problème étant que, comme il me l'a confirmé, c'est une interview qu'il a complètement inventée, c'est-à-dire qu'il avait, il sait pas très bien lui-même s'il a jamais eu Johnny Rotten au téléphone. Le problème, c'est qu'il a eu une fois quelqu'un qui lui a dit d'aller se faire foutre, je cite. Donc, il me dit, je pense que c'était lui, mais en fait, j'en suis pas sûr. Donc, voilà, ça reste complètement apocryphe. Donc il a monté cette interview plus ou moins imaginaire à partir d'autres interviews qu'il a eues, qu'il a glanées dans des fanzines anglais à l'époque. Alors, donc, le client de son taxi, donc, dont je ne répéterai pas le nom, lui propose de travailler avec lui, lui propose de travailler sur le mouvement punk et lui propose de venir l'aider à trouver des revues, des fanzines, des journaux qui pourraient correspondre à son exposition sur le rock, qui va devenir entre autres une exposition sur le punk. À partir de ce moment-là et à partir de cette rencontre, Klaus Meck va décider que, justement, suite à tous les voyages qu'il fait à Londres, il va commencer par fonder tout simplement son propre magasin, qui va être le magasin Ripoff. Là, vous voyez Klaus Meck, jeune, avec toujours Patti Smith derrière. Je ne sais pas si c'est une obsession chez lui ou pas, et avec The Clash. Donc, ce qu'il raconte, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment un des premiers magasins punk, tout simplement. Encore une fois, avec l'intérêt que les disques venaient directement depuis Hambourg, enfin depuis Londres, pardon, jusqu'à Hambourg. Donc, ils vont commencer à travailler ensemble. Au début, le magasin Ripoff va simplement s'occuper de vêtements. Il n'y a pas vraiment de disques. Alors, leur vente la plus importante, ce sont des badges. Il y a énormément de punk, de jeunes gens, quand ils disent jeunes, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans, qui viennent pour acheter des vêtements, pour acheter des affiches, pour acheter des badges. Il y a énormément de discussions sur ce qu'est le punk, sur l'idéologie du punk. Vous avez les premiers labels qui sortent, comme Zigzag, comme on dit en allemand. Il y a énormément de musiciens qui viennent. Et puis, il y a un certain nombre d'artistes, c'est-à-dire il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a des journalistes. Et puis, au fur et à mesure, il va y avoir des disques qui vont venir rapidement depuis Londres. Et donc, le magasin Ripoff de Klaus Meck va devenir, à proprement parler, un véritable magasin de disques qui va sortir des albums. Je lui ai posé la question de la censure à l'époque, à Hambourg, donc c'est en RFA, mais il y a une véritable influence de la RDA, en particulier par les textes qui sont publiés dans le magazine Concret, où va écrire Ulrike Meinhof, donc avec la fraction Armée Rouge. Alors, lui, il me précise que c'est pas forcément quelqu'un pour lequel il a une véritable admiration, mais en tout cas, il y a des idées qui peuvent sembler pertinentes dans les idées que va développer Ulrike Meinhof, qu'on peut trouver aujourd'hui encore en librairie. Il y a un livre qui est ressorti il y a pas très longtemps qui s'appelle Everybody Talks About the Weather, But We Don't, c'est-à-dire tout le monde parle du temps qu'il fait, mais pas nous, qui a été entre autres publié à l'aide de sa fille. Sa fille qui a énormément de problèmes avec l'héritage de sa mère et qu'il tient à distance. Parmi les groupes que Klaus Meck va réussir à promouvoir, il va y avoir en particulier Abwärts, qu'on va écouter ici.
Kalt.
Donc ça, c'était Upvert, qui était un des groupes principaux qui était, on va dire, promu par Klaus Meck et par le magasin Ripoff. L'important pour lui, c'était précisément de faire découvrir la musique, ce qui paraît relativement naïf aujourd'hui. Lui-même en parle comme une idée à la base qui était relativement naïve, c'est-à-dire faire écouter tout simplement des disques. Et puis, au fur et à mesure, à partir du moment où il fait écouter des disques qui viennent de Londres, en particulier les Sex Pistols ou The Clash, qu'il a l'occasion de voir à Hambourg, toujours pas les Sex Pistols, mais The Clash, il va y avoir la naissance de groupes qui vont être typiquement allemands, au sens où, tout simplement, il va y avoir un mouvement punk qui va commencer à chanter en allemand, ce qui n'était pas le cas. Le magasin Ripoff a aidé à cette émergence d'un punk qui va être strictement allemand. Il y a une question identitaire qui est extrêmement importante en Allemagne, comme vous le savez, puisqu'il y a eu l'occupation de Berlin par les puissances étrangères, dont les Américains, et il y avait un certain nombre de groupes qui ne chantaient qu'en anglais. Lui, il en parle comme d'une idée, ça c'est Amok Coma, donc, qui va être l'album d'Upvert. Il en parle comme quelque chose donc, d'essentiellement naïf, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas se vendre, c'est quelqu'un qui ne sait pas vendre des disques. Donc c'est pour ça, entre autres, que le magasin Ripoff ne va durer que 4 ans. Et l'intérêt pour lui aussi, ça va être d'offrir un lieu de vie pour les punks. Lieu de vie pour les punks, ça veut dire tout simplement un lieu où les punks auraient le droit de venir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en particulier à Hambourg, il va y avoir un vrai problème qui n'est pas forcément un problème de censure, parce que lui m'assure que, paradoxalement, il n'y a pas de problème de censure particulier. Il y a simplement pour un groupe qui s'appelle Slime, où il va être convoqué par la police, c'est un disque qui est interdit, tout simplement parce qu'il explique de manière naïve, c'était des groupes qui demandaient, qui exigeaient la fin et la destruction de l'Allemagne. Et la police prend ça de manière extrêmement sérieuse et au premier degré. Donc on lui demande de s'expliquer sur la vente de ses disques. Donc lui explique tout simplement que c'est des groupes qui viennent dans son magasin, qui déposent des disques et lui doit les vendre tout simplement. Donc il n'y a pas de... Lui, son excuse, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de fond politique. Alors évidemment, c'est une excuse puisque la politique, elle est extrêmement présente et en particulier avec l'influence, encore une fois, du magazine Concrete. Il va y avoir un autre magazine qui va être Gasoline 23 avec des auteurs comme Plug, qui va être un auteur et un essayiste expérimental. L'intérêt pour lui, c'est d'avoir un lieu de vie, un intérêt où un lieu où il n'y aurait pas de censure, tout simplement. C'est-à-dire où les gens seraient libres de parler de ce qu'ils veulent et d'écouter de la musique, encore une fois. Il va se rendre compte également qu'il va y avoir la mairie de Hambourg qui va essayer de faire déménager le magasin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont peur de la violence. Et ils vont lui expliquer que, ben, à Hambourg, il y a déjà un niveau de pauvreté qui est extrêmement important. Enfin, à l'époque, en tout cas, au début des années 80. Et qu'ils veulent pas qu'il y ait d'autres sans-abri, entre guillemets, qui viennent polluer leur ville, puisque c'est exactement ce qui est dit. Heureusement, toute cette pression en sous-main de la mairie de Hambourg va mener à rien. Ben, ils vont être obligés de déménager une fois le magasin, un temps. Et ils vont revenir là où ils étaient, à l'origine, le magasin Ripoff. Et ça va être surtout le moyen pour lui de travailler à ce qu'il considère comme une politique du punk. C'est-à-dire, la politique du punk, à l'époque, en 1979, ça veut dire quel est le rapport de la scène punk avec tous les mouvements comme la fraction Armée Rouge, en RDA. Ça veut dire aussi se poser la question de la violence, qui est souvent une violence fantasmée, puisqu'on leur reproche au punk, et en particulier au magasin Ripoff, d'être des gens violents, alors qu'il n'y a absolument aucune bagarre, ce sont des gens qui sont complètement calmes, mais on leur reproche paradoxalement d'inciter à la violence. Et il va y avoir cette question de se positionner par rapport, d'une part, à la police, à la violence policière, et de se positionner par rapport à la violence du terrorisme, et en particulier au terrorisme de la fraction Armée Rouge. C'est-à-dire, ce qui est assez étonnant aujourd'hui quand on en parle, c'est si vous lisez les textes d'Ulrike Meinhof, entre autres ceux qui sont publiés dans Concrete, c'est que ce sont des textes aujourd'hui qui apparaissent relativement simplement sains. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de nihilisme dedans. On a l'impression simplement d'avoir des textes de quelqu'un de gauche, tout simplement. ce qui n'a rien à voir forcément avec ses actions ou avec le sang qu'elle a pu avoir sur les mains par la suite. Mais voilà, je crois que c'était l'intérêt, la musique et la politique. Je vais juste terminer sur le fait que le magasin Ripoff a fermé ses portes en 1983, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus du tout d'argent. C'est-à-dire que, comme lui me l'expliquait, Klaus Menck, il y a eu une mode du punk qui est arrivée, entre autres grâce au magasin Ripoff, qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à faire du punk, que ce soit en allemand ou que ce soit en anglais. C'était des gens qui n'avaient pas forcément une véritable éthique punk, qui reste toujours quelque chose à discuter, en particulier à Pind. C'était des gens qui, tout simplement, voulaient faire de l'argent et qui se sont mis à faire du pseudo-punk avec des pseudo-idées révolutionnaires. Et en fait, les disques punk que lui défendait comme Abwärts ou comme qui n'étaient pas du punk... Pour ceux que je vais mentionner, mais comme Neubauten. Il y a deux membres de. J'ai oublié de préciser qu'il y a deux membres de Abwärts qui vont fonder Neubauten plus tard. Donc les véritables disques punk que lui vend et qui défend à Ripoff vont finir par ne plus intéresser grand monde. Donc il va être obligé de mettre la clé sous la porte. Il y a la justice qui va lui demander entre 50 000 et 100 000 Deutschmark, ce qu'il est incapable de payer. Donc lui, il m'expliquait qu'à l'époque, pour lui, ça représentait une somme absolument impossible à rassembler. Donc il a fui tout simplement à Berlin pour fuir tout simplement les gens qui lui demandaient de l'argent. Et puisque je dois m'arrêter, je vous conseillerais juste deux choses parce que c'est un personnage qui est très important à mes yeux à la fois comme défenseur du punk... comme intellectuel et comme réalisateur et comme producteur. Je vous conseille, si je peux, pour finir, de voir ces deux films. Le premier qui est Décodeur, qui est signé par Mucha, mais en fait c'est un collectif, donc ils étaient quatre à travailler sur le film à l'époque, qui a été présenté au Festival de Berlin au tout début des années 1980 et qui est un film qui est paradoxalement assez oublié, alors qu'à mes yeux c'est un chef-d'œuvre. Et le deuxième qui est B-Movie. Et puis, puisqu'il me reste 2 minutes, je peux vous passer la fin. Vous voulez voir la fin ?
Ouais.
C'est bien, vous êtes une foule hyper influençable.
Moment, oh, merci. Und den Kick, das hier und jetzt. Die Tage waren kurz und die Nächte lang. Endlos lang. Nick Cave hat es auf den Punkt gebracht. In Berlin gibt es die schönsten Frauen, die besten Drogen und eine Menge Leute, die Künstlern wirklich Respekt entgegenbringen. Diesen Ort wird es so nie wieder geben. Er ist verschwunden. Mit diesem Film nehme ich euch mit auf meine ganz eigene Reise durch das wilde West-Berlin der 80er Jahre.
Donc ça, c'était le chanteur de Neubauten que vous aurez reconnu. Je ne dirai plus jamais Neubauten de ma vie. Voilà, je vous remercie. Désolé, c'était court. Qu'est-ce que j'ai pu.
Merci Christophe pour ce. C'est vrai que cet aperçu trop court, mais très très intéressant sur. Une scène qu'on connaît assez peu, en fait. Hein. T'as pu retracer une certaine généalogie et des connexions qui existent entre la politique et la musique à ce moment-là. Et vraiment, c'est très intéressant. J'espère que tu vas publier quelque chose autour de cette problématique. Quant à Ulrike Meinhof, sa fille a raison de prendre ses distances, vu qu'on a pu savoir que Ulrike Meinhof était tout de même une encartée dans le Parti communiste de l'Allemagne de l'Est, et donc ce qui relativise beaucoup son engagement aussi révolutionnaire, mais ce qui ne remet pas en cause, comme tu l'as dit, en tant qu'intellectuel de gauche, ses écrits à l'époque, avant de basculer dans le terrorisme, qu'elle a publié dans Concrete.